Bonjour à tous. Que le Seigneur puisse bénir ces moments que nous passons ensemble dans sa présence parce qu'il est au milieu de nous, il est parmi nous. Et non seulement il est parmi nous, il est avec nous parce qu'il est Emmanuel. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois de plus, nous venons à toi afin que tu puisses ouvrir nos cœurs. Afin que tu puisses nous éclairer au travers de ta parole. Car ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité que nous voulons écouter, Seigneur. Parle au-dedans de chacun d'entre nous, Seigneur. Afin que chacun de nous puisse comprendre ce que toi tu veux nous dire ce matin. Et je me remets moi-même entre tes saintes mains, Seigneur. Purifie mes lèvres. Saisis-toi de moi, Seigneur, afin que je puisse parler de ta part, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons chanté un cantique, je n'ai pas le cantique ici, sur les aides de la foi, le cantique 101, qui parlait de la bonté du Seigneur, et les premières strophes disaient que « Venez à lui tel que vous êtes ». Venez à lui tel que vous êtes. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a une femme qui est venue aussi à Jésus-Christ, telle qu'elle était. Telle qu'elle était. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 7. Évangile de Luc au chapitre 7, à partir de 36 jusqu'au verset 50. L'évangile de Luc, chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 50. Nous lisons la parole de Dieu, le verset 36. Un pharisien priant Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, estant derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » C'est la parole du Seigneur. J'ai intitulé ce message comme ceci, « Celui qui est pardonné aime beaucoup. » Celui qui est pardonné aime beaucoup. Frères et sœurs, ce passage nous parle d'une femme pécheresse, comme nous venons de le lire. Une femme pécheresse dont la vie fut transformée, bien sûr, par Jésus-Christ. Et cette femme a beaucoup à nous enseigner afin que nous puissions suivre son exemple. Ne nous voilons pas la face, nous luttons tous contre les péchés. Nous luttons tous contre les péchés. Et ce matin, nous voulons penser à cette femme qui a trouvé le pardon auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors notre méditation sera axée sur, premièrement, l'invitation du pharisien. Deuxièmement, l'adoration sans parole de cette femme. Elle a adoré notre Seigneur Jésus-Christ sans dire un mot, sans prononcer un mot. Troisièmement, la condamnation du pharisien. Et enfin, le pardon de Jésus-Christ. Alors l'invitation du pharisien. La Bible dit que un pharisien a invité Jésus chez lui. Une invitation que notre Seigneur a acceptée volontiers. Et le Seigneur Jésus-Christ va saisir de cette occasion pour enseigner à ce pharisien une puissante leçon d'amour et de pardon. Ce n'était pas une visite amicale ou une invitation amicale. C'est pourquoi cette invitation doit être prise, je pourrais dire, avec méfiance. Avec méfiance. Parce que nous ne savons pas les motivations qui ont poussé ces pharisiens à inviter Jésus-Christ de venir chez lui. Mais par contre, le Seigneur Jésus-Christ savait tout, parce que lui, il sait. Nous, peut-être en lisant, en se limitant jusqu'au verset 36, qu'il a été invité chez ce pharisien, nous ne savons pas les motivations. Le verset 40 dit que ce pharisien s'appelait Simon. Parce que jusque-là, à partir du verset 36, le nom de ce pharisien n'était pas indiqué. Mais au verset 40, la Bible dit que ce pharisien s'appelait Simon. Entre parenthèses, ne confondez pas Simon, c'est Simon le pharisien, avec un autre Simon, Pierre. Il ne faut pas confondre. Parce que ce n'est pas Simon-Pierre, le disciple ou l'apôtre, qui a invité Jésus, c'est Simon le pharisien. C'est Simon le pharisien. Jésus et le pharisien, en lisant la Bible, frères et sœurs, se sont affrontés à plusieurs reprises, surtout concernant leur interprétation de la loi de Moïse. Et nous devons savoir aussi que, au moment où Jésus reçoit cette invitation, le pharisien s'opposait à tout ce que Jésus-Christ faisait, à tout ce que Jésus-Christ disait. Voilà le décor dans lequel se trouvaient Jésus-Christ et les pharisiens et le décor dans lequel nous pouvons comprendre l'invitation qui a été faite à Jésus-Christ à cette époque. Non seulement les pharisiens n'acceptaient pas les témoignages de Jean-Baptiste concernant Jésus-Christ, mais ils ne considéraient même pas Jésus-Christ comme étant un prophète. Il accusait entre autres d'être l'ami de pécheurs, de collecteurs d'impôts, de publicains, que Jésus-Christ était l'ami des gens de mauvaise vie. Nous pouvons même le voir dans Luc chapitre 7, au verset 33-34, il est dit ceci. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Et le verset 54, et 34, pardon, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà comment ils accusaient Jésus-Christ à l'époque, ces pharisiens. Et au vu de la haine des pharisiens envers Jésus-Christ, cette invitation adressée à Jésus-Christ n'était pas une invitation amicale. N'était pas une invitation amicale. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose de louche là-dedans. Alors, pourquoi Jésus-Christ a été invité? Pourquoi il a invité Jésus-Christ chez lui? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Pourquoi ce pharisien a invité Jésus-Christ chez lui? Nous pouvons, frères et sœurs, dire que la simple raison pour laquelle le Seigneur a été invité, c'était de lui mettre à l'épreuve, de le piéger. C'est de mettre Jésus-Christ à l'épreuve. C'est tout ce qu'on peut dire. Afin que le pharisien puisse avoir des preuves pour accuser le Seigneur plus tard, pour dire que voilà, on l'a eu. Regarde, il a fait ça, il a dit ça, donc ce n'est pas un prophète venant de Dieu. C'était une invitation piège, s'il faut le dire comme ça. Je ne sais pas si ça s'est dit en français. Donc, voilà, c'était pour le mettre à l'épreuve. Mais, il y a une chose que Jésus-Christ a acceptée, cette invitation, et il est allé dans la maison de ce pharisien. Ce pharisien n'a pas compris une chose. Il n'a pas compris qu'il avait un privilège immense d'avoir Jésus-Christ assis à sa table et mangeant avec lui. C'était un privilège. Mais lui, il ne s'est pas rendu compte de cela. Ce matin, aujourd'hui, nous qui croyons à notre Seigneur Jésus-Christ, s'il dit que je viens manger chez toi, oh là là, quel privilège! Quel privilège! Mais lui, il ne s'est pas rendu compte. Mais dans cette visite de Jésus-Christ chez ces pharisiens, nous voyons une chose. Ça a été dit ce matin, la bonté de notre Seigneur. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est bon. Nous voyons dans cette visite l'un des attributs divins de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est prêt à manifester de la bonté même envers ceux qui s'opposaient à lui. Il a invité. Humainement parlant, dans notre orgueil humain, c'est rare qu'on puisse répondre à une invitation des gens qui ne vous aiment pas. Il n'y a pas beaucoup qui répondent à ce genre d'invitation. On cherche toujours des excuses. Mais le Seigneur a accepté, dans sa bonté, il est allé répondre à cette invitation. Oui, combien le Seigneur est bon, même envers ceux qui ne croient pas en lui, comme ce pharisien. La bonté de notre Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons louer le Seigneur pour cela. Même aujourd'hui, lui qui reste toujours fidèle, même si nous nous demeurons infidèles, comme nous, ça a été dit ce matin, le Seigneur manifeste toujours sa bonté envers nous. Et nous pouvons les louer pour cela. Le pharisien n'a pas loué le Seigneur pour cela, mais nous qui comprenons, nous qui savons qui est notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons les glorifier, l'adorer pour cela, pour sa bonté qui se manifeste jour après jour dans nos vies. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il s'est présenté à la maison de ce pharisien. Le psaume 145, verset 9 dit, « Car l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, est toujours bon pour nous. Nous avons chanté pour cela, nous avons loué le Seigneur pour cela, que son nom soit béni. Et il nous montre toujours la voie. S'il est parti chez ce pharisien, c'était une voie que le Seigneur montra à ce pharisien. Regarde, suis cette voie. Arrête la voie que Dieu est en train de suivre. Viens à moi et suis cette voie. Et il y a le psaume qui a été lu ici, le psaume 25, le verset 8, qui dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi Il montre aux pécheurs quoi? La voix, sa voix. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Il est bon et il manifeste toujours sa bonté. Voilà tout ce que nous pouvons retenir pour l'invitation qui lui a été lancée par ce pharisien. Et le deuxième point, c'est l'adoration sans parole de la femme. Cette femme a adoré le Seigneur, cette femme a loué le Seigneur. Cette femme a exalté le Seigneur, mais sans prononcer un mot, sans dire un mot. C'est bien de parler quand on adore Dieu, c'est bien, mais elle n'a dit aucun mot. Aucun mot. Nous ne savons pas qui elle était. Son nom n'est jamais mentionné dans la Bible. Et nous pouvons même dire que c'est une femme sans nom. Parce que la Bible ne dit pas son nom. Mais elle est venue vers Jésus-Christ. Elle n'a pas été invitée. Et elle est décrite comme étant une pécheresse. C'est tout ce que la Bible dit. Elle est décrite comme étant une pécheresse. J'ai essayé de chercher la définition du mot pécheur. J'ai trouvé beaucoup de définitions dans les dictionnaires bibliques, tout ça, et dans d'autres livres. Mais j'ai retenu l'une des définitions parmi tant d'autres, que le mot pécheur ne signifie pas souvent celui qui n'est pas chrétien. Le mot pécheur ne signifie pas souvent celui qui n'est pas chrétien. Le terme est souvent utilisé pour désigner celui qui vit ouvertement dans le péché. Et j'ai trouvé ça intéressant comme définition. Oui, la Bible ne dit rien de quel péché cette femme était coupable. La Bible ne dit pas. Qu'est-ce qu'elle a fait comme péché ? La Bible ne le dit pas. Ce que nous savons, que ces péchés étaient connus de tous et qu'ils étaient associés à la vie qu'elle menait dans cette ville. C'est tout ce que la Bible nous dit. Et ces péchés étant si nombreux, que le pharisien, entre guillemets, qui n'avait rien à se reprocher, la voyait comme étant quelqu'un qu'on ne devrait pas s'approcher et qu'on ne devrait même pas la toucher parce qu'elle était souillée. Elle était une pécheresse. On ne devait même pas lui parler. On ne devrait même pas s'approcher d'elle. C'est comme ça que les pharisiens voyaient cette pauvre femme. Mais il y a encore une chose. Pour cette femme qui est venue à Jésus-Christ, on a chanté tout à l'heure le cantique 101 que « Ne tarde pas, viens à Jésus tel que tu es. » Et elle est venue à Jésus telle qu'elle était, avec ses péchés. Non seulement avec ses péchés, avec ses nombreux péchés. Et comprenons aussi une chose, que cette femme ne vient pas à Jésus-Christ pour être guérie d'une maladie. Parce qu'à l'époque, il y a plusieurs personnes qui venaient à Jésus-Christ pour être purifiées, pour être guéries, des paralytiques, des aveugles. Mais cette femme ne vient pas à Jésus-Christ pour être guérie d'une maladie. Parce que la Bible ne dit pas qu'elle était malade. La Bible ne dit pas. Et cette femme, elle ne vient pas non plus à Jésus-Christ pour être délivrée d'un esprit mauvais ou d'un démon. Il ne vient pas à Jésus-Christ pour être délivrée d'un esprit impur parce qu'il n'y avait aucune présence démoniaque en elle. La Bible ne le dit pas. Elle vient à Christ, elle vient à Jésus-Christ seulement parce qu'elle se reconnaît, elle a reconnu, elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Voilà ce qui l'a poussée d'aller vers Jésus-Christ. Parce qu'il s'est rendu compte de ses péchés. Elle est rentrée dans son fort intérieur. Elle s'est dit, je suis une pécheresse, alors je vais à Jésus-Christ tel que je suis. C'est vrai, le cantique qu'on avait chanté, ne tarde pas, viens à lui tel que tu es, et elle est venue. Nous lisons au verset 37 et 38, ceci. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, donc Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Voilà ce qu'elle a fait. Il y a plusieurs choses que cette femme exprime dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle a fait qui montrent la profondeur même de l'amour qu'elle a pour Jésus-Christ. La profondeur de l'amour qu'elle a pour Jésus-Christ. Elle adore Jésus-Christ dans ce qu'elle a fait, sans dire un mot, sans dire que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, Seigneur, pardonne-moi, sans dire un mot. Ça dure, sans dire un mot. Vous savez, des fois pendant le moment d'adoration, il y a des moments de silence des fois aussi. Ça ne voudrait pas dire que pendant ce moment de silence qu'on n'adore pas le Seigneur. On peut adorer le Seigneur sans dire un mot, mais on est concentré, on est plongé dans la reconnaissance, dans l'élévation dans notre cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme a adoré le Seigneur sans dire un mot. Elle adore Jésus sans dire un mot, mais ses larmes disent ce qu'elle a dans son cœur. travers ses larmes reflètent ce qu'il y a dans son cœur. Vous savez, frères et sœurs, c'est très important, des fois, d'exprimer ce qu'on ressent dans le cœur, à haute voix ou silencieusement. La Bible dit, elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. En pleurant, elle manifeste la profonde tristesse qu'elle ressent dans son cœur pour ses péchés. On peut pleurer de joie, tout comme on peut pleurer aussi de tristesse. Et cette femme pleurait de tristesse. Et ses larmes manifestaient ce qu'elle ressentait dans son cœur. Elle pleurait non seulement de larmes de tristesse, mais de gratitude aussi, de reconnaissance envers le Seigneur. Parce qu'elle savait, lui seul, lui et lui seul, pouvait faire quelque chose de bien pour elle, parce que le Seigneur est bon. Elle a compris cela. Frères et sœurs, qui parmi nous n'a pas pleuré parce que on a fait quelque chose de mauvais, de mal, quelque chose qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur? Qui parmi nous n'a pas pleuré, si nous devons être sincères? Qui parmi nous n'a pas pleuré quand tu réalises que ce que j'ai fait, oh Seigneur, j'ai offensé mon Dieu? Le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Quand tu es convaincu que ce que tu as fait n'est pas bon, il y a des larmes qui coulent. Il y a des larmes qui coulent. Et cette femme a pleuré. Et vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes, si nous lisons la Bible, qui ont pleuré parce qu'ils ont mal agi, parce qu'ils se sont mal comportés devant le Seigneur. Nous pouvons citer l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans Luc chapitre 22 et le verset 61 à 62. Luc chapitre 22, je vais lire pour vous. Je peux même lire à partir du verset 59. Luc, chapitre 22, à partir du verset 59. 58 même, bon. On ne va pas remonter jusque non, bon. Ok, 58. Peu après, un autre l'ayant vu, donc ayant vu Pierre, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme est aussi avec lui, car il est galiléen. C'est quand on avait arrêté Jésus-Christ. Le verset 60, Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et quand Pierre s'est rendu compte de cela, quand il a réalisé sa faute, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 62 nous dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Et dans notre passage, cette femme a pleuré. Parce qu'il a réalisé au fond de son cœur qu'elle était pécheur. Que le Saint-Esprit puisse vraiment travailler en nous et nous rappeler. Et c'est ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Et cette femme était convaincue qu'elle s'est mal comportée. Oui, l'apôtre Pierre a renié le Seigneur et il sortit et pleura amèrement. Cette femme, dit la Bible, embrassa et versa le parfum sur le pied de Jésus. Et c'était un signe de respect à cette époque. Un signe de respect à cette époque. Et ce parfum qu'elle avait versé représentait une dépense considérable pour une pauvre femme comme elle. Certainement, la somme de tout ce qu'elle possédait. Mais tout cela, en faisant cela, en versant ce parfum qui coûtait certainement cher, elle démontrait qu'il n'y a pas de prix pour elle d'adorer le Seigneur. Il n'y a pas de prix pour elle d'adorer le Seigneur. Peu importe ce que coûtait ce parfum. Nous, des fois, pour venir au culte, ah non, il faut que je prenne le train, le bus, non, le train, le métro, le bus, marcher à pied, ah, ça va me coûter trop cher. Mais pour cette femme, elle a démontré que non, il n'y a pas de prix pour aller, pour adorer mon Seigneur. Il n'y a pas de prix. Mais nous, aujourd'hui, certains, nous disons, je ne peux pas, parce que ça va me coûter ceci, ça va me coûter le temps, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter le carburant, ça va me coûter ceci, ça va me coûter cela. Que cette femme, vraiment, puisse nous enseigner, l'exemple de cette femme puisse nous enseigner, frères et sœurs. Pour elle, cette pauvre femme, il n'y avait pas de prix, malgré que son parfum coûtait tellement cher. Et dans l'évangile, dans la Bible, nous avons aussi beaucoup d'exemples, des exemples de femmes qui ont versé des de parfum sur le pied de Jésus-Christ. Dans l'évangile, par exemple, l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 5, nous avons l'exemple de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie qui a versé aussi du parfum sur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, à partir du verset 2, du chapitre 12 de Jean. On peut commencer à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Le verset 2. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Regardez la réaction de Judas quand il a vu ça. Le verset 4 dit, « Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait les livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Oui. Pourquoi n'a-t-on pas vendu? Et si nous faisons un parallèle, un rapprochement, une comparaison entre ce que Marie de Béthanie a fait et ce que cette femme pécheresse a fait, vous remarquerez que dans les deux cas, elles ont été critiquées. Elles ont été critiquées. Marie de Béthanie a été critiquée par les disciples et le Judas, et la femme pécheresse a été critiquée par qui? Par ce pharisien. Oui, Judas a manifesté son opposition à ce que Marie a fait en disant, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum et donné cet argent aux pauvres? Et pour le cas de la femme, de cette femme, Simon le pharisien manifeste son opposition à la valeur du pardon que Jésus va accorder à cette femme, considérant que cette femme était indigne de recevoir le pardon de Dieu parce qu'elle est pécheresse. Parce qu'elle est pécheresse. Judas dit non. Et le pharisien dit non. Si nous considérons tout ce que cette femme a fait, frères et sœurs, nous voyons très clairement l'amour qu'elle avait pour Jésus-Christ. Sinon, elle n'allait pas faire tout ce qu'elle a fait. Alors, posons-nous une question ce matin. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour manifester votre reconnaissance, votre amour au Seigneur Jésus, qui vous a pardonné de vos péchés, qui nous a pardonné nos péchés? Quel prix? Quel prix, frères et sœurs, nous sommes prêts à payer? Est-ce que les gens savent? Parce que c'est ce que cette femme faisait. Il y avait des gens qui voyaient. Est-ce que les gens savent que vous aimez votre Seigneur Jésus-Christ comme vous leur avez dit? Ou est-ce que les gens peuvent voir clairement l'amour du Seigneur à travers ce que vous faites pour votre Seigneur? Est-ce que les gens peuvent le dire? À travers ce que moi je fais, à travers ce que toi tu fais, à travers ce que nous faisons, est-ce que les gens qui nous entourent peuvent voir l'amour que nous portons pour notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que pour le cas de cette femme, le pharisien et les gens qui étaient là, ils ont vu, oui, parce que ce n'est pas facile de perdre un parfum qui coûte trop cher. Heureusement, à cette époque, il n'y avait pas de Dior. Hein. Il y a Dior, il y a tout ça. Hein. Mais ils avaient leur parfum, leur marque à eux qui coûtait très cher, que nous, on ne connaît pas. Mais les gens ont vu que non. Si elle fait ça, c'est qu'elle aime réellement son Seigneur. Oui, les péchés de cette femme étaient nombreux, mais sa démarche de repentance et ses actions envers Jésus-Christ montrent qu'elle avait besoin d'être pardonnée. Elle avait besoin d'être pardonnée. Frères et sœurs, Simon le pharisien et Jésus-Christ révèlent deux manières différentes d'aborder cette femme pécheresse. Le pharisien condamne cette femme, mais Jésus-Christ lui offre le pardon. Et notre troisième point, c'est la condamnation du pharisien. Simon était un pharisien. Il se considérait comme étant un homme juste et il pensait certainement dans son cœur, je suis ce genre de personne que Dieu approuve. Pour lui, il se considérait comme ça. Je suis ce genre de personne que Dieu approuve. Il se croyait pur et n'avait rien à se reprocher. Il n'avait pas conscience et il n'était même pas conscient qu'il était un pécheur comme cette femme. Il n'avait pas conscience en cela. Pourquoi? Parce que il ne s'approchait pas de pécheurs. Au contraire, il le méprisait. À l'époque de Jésus, frères et sœurs, un pharisien, si nous lisons la Bible, un pharisien était quelqu'un qui était perçu comme étant l'exemple parfait de celui qui n'avait rien à se reprocher et qui obéissait à la lettre, à la loi de Moïse. Pour eux, le fait d'être touché par quelqu'un qui est souillé le rendait impur. Simon, lui, un bon pharisien, n'aurait jamais adressé la parole à cette pécheresse. Jamais. Ni permettre que cette femme puisse s'approcher de lui. Jamais. Il n'allait pas le faire. Vous savez, Jésus et les disciples ont été souvent critiqués, comme on l'avait dit, hein. Jésus et les disciples ont été souvent critiqué pour avoir mangé et bu avec des pécheurs, comme nous l'avons dit. Et quand Jésus assista à un festin organisé par Matthieu, à l'époque s'appelait Lévi, dans Luc chapitre 5, verset 30, qu'est-ce que les pharisiens ont dit quand ils ont vu Jésus aller à ce festin organisé par Matthieu? Les pharisiens et les scribes, dans Luc 5, 30, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Pour il était hors de question. Si vous êtes pur, vous êtes juste, vous n'avez pas le droit de manger avec eux, même de parler avec eux. Et nous lisons au verset 39 que le pharisien qui avait invité Jésus-Christ, voyant cela, qu'est-ce qu'il dit? Dit en lui-même, si cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ils disent, mais Jésus s'est dit, il est l'envoyé de Dieu. Il est juste. Vraiment, s'il était vraiment ce qu'il dit là, il n'allait pas permettre que cette femme puisse le toucher. Non seulement Simon, le pharisien, était dégoûté par cette femme pécheresse, mais Simon, le pharisien, était aussi dégoûté que Jésus permette que cette femme puisse le toucher. Alors il commence à se poser des questions. Si Jésus est même un prophète, c'est grave d'avoir de telles pensées dans son esprit. Et dans une certaine, si nous pouvons dire ça comme ça, dans une certaine ironie, il est sur le point d'accuser Jésus-Christ d'être ignorant. Christ n'est pas ignorant. Je n'ai pas dit ça, que Christ est ignorant. Non, j'ai dit, dans une certaine ironie, il était sur le point d'accuser Jésus-Christ d'être ignorant, donc pas un prophète. Si nous considérons la réaction de Pharisien. Parce qu'il dit, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc Jésus, pour lui, Jésus-Christ, il ne voit rien, il ne connaît rien, il ne sait rien. Donc ce n'est pas vraiment un prophète. Et pourtant, à l'époque, l'opinion populaire sur Jésus-Christ en ce moment était que Jésus était grand prophète et que Dieu a visité son peuple. C'était ça l'opinion publique à cette époque. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 16, voici le témoignage de la foule quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve. Luc 16, il est dit, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Mais pour les pharisiens, non, ce n'était pas le cas. Ils ne le considéraient pas comme ça. Mais seulement, Simon avait raison sur une chose, que cette femme était une pécheresse, c'est vrai. Mais il s'est trompé sur tout le reste. Il s'est trompé sur tout le reste. Il pensait que Jésus n'avait aucune idée sur le genre de femme qui le touchait. Et pourtant, Jésus savait parfaitement. Jésus savait parfaitement qui était cette femme. Le Seigneur connaissait le péché de cette femme. Mais le Seigneur connaissait non seulement le péché de cette femme, le Seigneur connaissait aussi le péché de Simon, de ce pharisien. Et nous devons nous rappeler ce matin, frères et sœurs, que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, connaît aussi nos péchés et nos faiblesses, comme nous sommes là. Chacun d'entre nous, le Seigneur connaît nos péchés, nos manquements et nos faiblesses, comme il connaissait les péchés de la femme pécheresse et les péchés du pharisien. Dans son amour, Jésus-Christ est toujours prêt à étendre sa main, prêt à étendre sa main et toucher ceux qui viennent à lui pour être purifiés. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples dans la Bible. L'exemple de Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. quand Jésus a touché ce lépreux, quand Jésus a purifié ce lépreux. C'est donc ce lépreux. Malgré que le lépreux était mis à part, à côté, on ne le touchait pas par les pharisiens, mais Jésus a touché et a purifié ce lépreux. Simon, les pharisiens ne pouvaient pas s'identifier à un pécheur. Ils ne pouvaient pas s'identifier à un pécheur qui était reconnaissant envers son Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi? Parce que ils ne voyaient pas l'importance ou la nécessité d'être reconnaissant envers le Seigneur. Ils ne voyaient pas l'importance et la nécessité de partager ce besoin que cette femme ressentait d'être pardonnée. Ils ne sentaient pas ses besoins. Et frères et sœurs, ne faisons pas cette erreur de ne pas ressentir ce besoin jour après jour d'être pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans notre marche chrétienne, nous nous souillons. C'est comme si le matin, donc on partageait cela avec un frère, le matin quand on sort de la maison, on est propre, on est bien là, les chaussures bien. Mais dès que vous sortez, vous marchez, vous marchez sur le sable, vous marchez sur tout. Le soir quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On prend une douche. Et pourquoi vous prenez une douche? Parce que vous êtes sali. Mais pendant la journée, vous avez transpiré, tout ça. Et vous prenez une douche pour être propre. Et la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est comme ça. La repentance, ce n'est pas question seulement pour ceux qui viennent au Seigneur pour la première fois, pour le baptême, ou bien pour être reçus par le Seigneur. La repentance, c'est une vie de tous les jours pour nous, enfants de Dieu. C'est une vie de tous les jours, de se repentir de ses erreurs, de ses péchés, de ses manquements. C'est comme quand nous sortons de notre maison, on est propre, on met même les parfums. Mais quand tu rentres chez toi le soir à la maison, même l'odeur du parfum, il n'y en a plus. Hein. Tu es obligé d'aller à la douche. Et la vie chrétienne, frères et sœurs, cette femme a beaucoup à nous enseigner. Et Simon le pharisien ne ressentait pas ces besoins-là de se repentir de ses péchés comme ressentait cette femme. Sa réaction, frères et sœurs, nous rappelle même l'histoire du publicain, si vous vous rappelez, l'histoire du publicain et du pharisien dans Luc 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Le publicain se voyait pécheur et n'osait même pas lever le yeux vers le ciel. Parce qu'il se voyait pécheur. Tandis que les pharisiens étaient considérés comme étant un homme juste et pensaient que Dieu n'avait qu'être fier de lui. Et c'est ce que l'attitude qu'a eu Simon le pharisien vis-à-vis de cette pauvre femme pécheresse. Le pharisien méprisait le comportement de la femme pécheresse. Il ne voyait pas la reconnaissance qu'elle manifestait envers Jésus-Christ. Si vous ne voyez pas le besoin d'être pardonné, vous ne serez pas reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour vous sur la croix. Vous ne serez pas reconnaissant. Frères et sœurs, que notre prière ce matin soit celle de David, dans Psaume 139, versets 23 à 24, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que ce soit notre prière ce matin pour chacun d'entre nous. Et enfin, le quatrième point, on va finir par là. Le pardon de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a regardé cette femme, il a vu un cœur qui souffrait pour le Seigneur. Et avant que le pharisien puisse dire quoi que ce soit, Jésus a lu dans ses pensées. Oui, le Seigneur est capable de lire dans nos pensées et dévoiler ce qui est dans notre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et le cœur. Quand le vieux Siméon avait reçu dans ses bras l'enfant Jésus, Qu'est-ce que Siméon a dit? Siméon a dit, Luc 2, 35, à cause de Jésus-Christ, les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Et les pensées de ces pharisiens ont été dévoilées. Jésus-Christ a lu dans ses pensées. Il lui a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et il lui raconte une parabole de deux débiteurs. Nous n'allons pas rentrer en détail là-dessus parce que le temps nous manque. Et s'il est vrai que certaines des paraboles de Jésus-Christ peuvent être difficiles à saisir, à comprendre, mais celle-ci n'en fait pas partie. C'est clair. Quand on lit, on comprend. On comprend. Et lorsque Jésus-Christ a obtenu la réponse qu'il voulait de Simon, il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Mes frères et sœurs, cette femme n'a pas été pardonnée à cause de ses larmes ou à cause de ce qu'elle a fait. Elle a été pardonnée parce que Jésus a vu sa foi. Parce que Jésus-Christ a vu sa foi. Le Seigneur a mis en lumière sa foi. Parce que c'est tout ce que Jésus pouvait voir et que les autres ne pouvaient pas voir. Il lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Rien d'autre. Christ a vu sa foi, la foi qui était dans son cœur. Nous voyons comment le pardon de Jésus peut changer la vie même d'une femme perdue dans de profondeurs du péché. Il n'y a personne à qui Dieu ne puisse pardonner ce matin, frères et sœurs. Peu importe le nombre de péchés que vous avez commis ou la gravité de ces péchés, frères et sœurs. Rien que le Seigneur ne puisse pas pardonner. Mais seulement, ayez cette foi-là en lui et venez à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10, dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Pour finir, frères et sœurs, la différence entre le pharisien et cette femme est que cette femme était consciente de son péché alors que le pharisien ne l'était pas. Si nous voulons voir notre amour grandir pour le Seigneur, pour notre Seigneur, nous devons reconnaître non seulement la profondeur de notre péché, mais reconnaître aussi que c'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ est allé sur la croix mourir à notre place. Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Quelle que soit l'ampleur de vos péchés, quelle que soit l'ampleur de nos péchés, quelle que soit l'ampleur de mes péchés, Jésus-Christ n'est pas mort. Ou je peux dire, Jésus-Christ n'est pas mort plus pour le plus grand pécheur et moins pour le petit pécheur. Non. Christ est mort pour nous tous. Et devant le Seigneur, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a que le péché. Tout comme cette femme a été pardonnée de ses péchés en plaçant sa foi. Il a été pardonné de ses péchés en plaçant sa foi en Jésus-Christ. Vous et moi aussi, nous sommes pardonnés à cause de notre foi en Jésus-Christ. Et l'amour doit être la réponse à ce Dieu qui pardonne beaucoup, car c'est lui qui nous a aimés les premiers. On va finir par cette question. Quand nous rencontrons des pécheurs,
comment réagissons-nous?
Nous réagissons, nous sommes-nous comme cette femme pécheresse ou sommes-nous comme Simon le pharisien? Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, que chacun puisse s'examiner, Seigneur, en commençant par moi-même, à la lumière de cette parole que toi, tu viennes nous transmettre ce matin, Seigneur. Merci parce que ta parole est une lumière, une lampe à nos pieds qui nous éclaire. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons encore des choses dans nos cœurs qui ne donnent pas gloire à ton nom, Seigneur. Oui, que ton esprit nous révèle, Seigneur, ce qu'il y a à régler devant toi. Merci parce que nous voulons continuer à t'exprimer notre amour, notre grand amour, parce que tu es mort sur la croix pour nous à cause de nos péchés. Au nom de Jésus. Amen.